Il est 1h du matin à Paris, 23h temps universel et c'est Radio France Internationale que vous écoutez. L'actualité du monde en 10 minutes sur la radio du monde. Pierre Boudias, bonsoir Pierre.
Bonsoir Zéphira, bonsoir à toutes et à tous. Israël s'invite dans les affrontements confessionnels en Syrie. Forces pro-gouvernementales et communautés druzes s'affrontent depuis 2 jours dans la banlieue de Damas. Dans ce contexte, l'armée israélienne frappe les alentours de la capitale syrienne en soutien à la minorité ismaélite. 100 jours d'angoisse et de colère au Groenland, le territoire autonome danois sous le feu des projecteurs. Depuis le retour de Donald Trump au pouvoir, reportage à suivre dans l'île arctique sur laquelle le locataire de la Maison Blanche rêve de planter le drapeau américain. 600 soldats nord-coréens seraient tombés en Russie, ce sont les chiffres transmis par Séoul ce mercredi, alors que Pyongyang a officiellement reconnu la présence de ses troupes sur le front. Désormais aguerris, les soldats de Kim Jong-un sont bien partis pour rester, vous l'entendrez. Et puis quand le dérèglement climatique fait partir les dollars en fumée, sécheresse, cyclone et autres inondations ont déjà coûté 137 milliards de dollars aux compagnies d'assurance et la tendance à la hausse devrait se poursuivre.
RFI.
La Syrie s'embrase à nouveau, deuxième jour de violences confessionnelles dans le pays, notamment dans la banlieue de Damas, dans les villes de Jaramana et Sanaya. Ces affrontements opposent des combattants pro-gouvernement, des factions armées et la communauté druze syrienne. Une trentaine de morts en 2 jours, dont des membres des forces de l'ordre, mais aussi des civils et des villes qui restent désertes. Des affrontements qui s'étendent également sur les routes entre Damas et Souaïda, le fief des druzes syriens. C'est dans ce contexte qu'Israël est intervenu ce mercredi, bombardant la Syrie et parlant de frappe d'avertissement. Alice Roussard.
Au moins 3 explosions de drones ont été entendues autour de Sarnaya, dans la campagne, aux alentours de la capitale syrienne. Et depuis l'après-midi, les avions israéliens continuent de voler au-dessus de Damas. Israël n'a pas attendu. Le pays a ordonné à l'armée de se tenir prête à frapper, je cite, des objectifs du pouvoir syrien si la communauté druze était menacée. Dans un communiqué conjoint, Benjamin Netanyahou et son ministre de la Défense, Israël Katz, évoquent, je cite, un message ferme à Damas. Ils laissent ainsi entendre qu'ils attendent du régime syrien des mesures afin d'empêcher tout préjudice à cette minorité qui représente 3% de la population syrienne. Des déclarations qui ne sont pas surprenantes, car l'hostilité d'une partie des druzes syriens envers les nouvelles autorités a déjà été instrumentalisée par le passé par Benjamin Netanyahou. Depuis la chute de Bachar al-Assad, Israël a multiplié les gestes d'ouverture, envoyant des colis humanitaires ou autorisant certains druzes syriens à se rendre en pèlerinage en Israël. Et dès le mois de mars, l'État hébreu avait affirmé les défendre. Des propos qui avait été immédiatement rejeté par les dignitaires druzes, qui avaient alors réaffirmé leur attachement à l'unité de la Syrie.
Alice Froussard et les Nations Unies dénoncent des violences inacceptables dans le pays. Le président syrien par intérim, Ahmad al-Sharré, promet lui de protéger toutes les composantes du peuple syrien. Il rejette toute ingérence étrangère en réaction aux frappes israéliennes. Israël toujours confronté à d'importants feux de forêt, des incendies non maîtrisés ce soir. Ils se propagent en raison de vents violents, des brasiers qui pourraient atteindre les quartiers périphériques de Jérusalem, voire la ville elle-même, met en garde le premier ministre israélien. Des Canadairs venus de plusieurs pays, dont l'Italie, sont annoncé dans les heures à venir selon les services du Premier ministre. RFI, il est 22h03 à Nuuk, le Groenland qui ne s'attendait probablement pas à faire la une de l'actualité à l'occasion des 100 jours au pouvoir de Donald Trump, c'était hier. Mais depuis son retour à la Maison Blanche il y a tout juste 3 mois, le président américain ne cache pas sa volonté de s'emparer du territoire autonome danois, une question de sécurité nationale selon le républicain qui entend acheter l'île de l'Arctique, voire s'en emparer par la force. Alors comment les 57 000 Groenlandais ont-ils vécu ces menaces? Justine Fontaine, notre envoyée spéciale, est allée leur poser la question à Nuuk.
Beaucoup ont réagi comme l'historienne Ouya Miuwak Engel. Elle a été profondément choquée par les menaces du locataire de la Maison Blanche.
Je suis prête à me battre contre ça, de tout mon être. Est-ce que j'ai le droit de dire des insultes? Je voudrais que cet homme se tienne le plus loin possible d'ici.
Le pays n'est ni à vendre ni à conquérir, c'est la position majoritaire. Un sondage fin janvier montrait que seuls 6% des répondants veulent faire partie des États-Unis, mais la pression exercée par Washington a relancé le débat autour de l'indépendance du pays. Plus de 80% des personnes interrogées dans le même sondage sont pour l'indépendance. La question, c'est quand et comment. La campagne des législatives en mars a tourné autour de ça. Le parti qui prône l'indépendance à court terme, Nalerak, a doublé son nombre de sièges. Pile Breberg est son président.
Les médias étrangers nous demandent ce qu'on pense de Trump. Mais vous, que pensez-vous des Danois qui nous ont annexés? Regardez ici la carte du Groenland. C'est le royaume du Danemark. Nous, les Groenlandais, nous n'en sommes pas propriétaires.
We don't own anything.
Son parti est arrivé deuxième, derrière celui du nouveau Premier ministre, qui lui prône l'indépendance à long terme et le maintien d'une relation de proximité avec le Danemark, dans une société qui s'est polarisée sur ce sujet. Justine Fontaine, Nook, RFI.
Et on rappelle que le vice-président américain Didi Vance s'était rendu sur place le mois dernier sans y avoir été invité. C'est l'autre territoire dont Donald Trump assure vouloir s'emparer, le Canada, qui a reconduit lundi le Premier ministre Mark Carney à l'issue des législatives, celui qui, dans son discours de victoire, a acté la fin de l'ancienne relation avec les États-Unis, sera reçu la semaine prochaine à la Maison-Blanche. Annonce de Donald Trump, qui assure s'être entretenu avec le libéral hier. Il n'aurait pas pu être plus sympa, selon les mots du président américain. Les États-Unis qui annoncent un accord avec l'Ukraine pour un fonds d'investissement et de reconstruction. Après des semaines de négociations, le texte prévoit le financement de projets d'extraction de minerais, de pétrole ou de gaz, selon Kiev. Le gouvernement ukrainien précise qu'il gardera le contrôle total de l'ensemble de son sous-sol. Le conflit en Europe de l'Est maintenant, où 600 soldats nord-coréens ont perdu la vie dans la seule région russe de Koursk. C'est l'affirmation des renseignements sud-coréens ce mercredi. Une annonce qui intervient deux jours après la reconnaissance officielle par la Corée du Nord de sa participation à la guerre aux côtés des soldats de Vladimir Poutine. Alors que Moscou assure avoir repoussé tous les soldats ukrainiens de la région, une question se pose, Nicolas Roca. Est-ce que les troupes nord-coréennes vont continuer le combat sur le territoire ukrainien?
18 000 soldats nord-coréens envoyés aux côtés des forces russes depuis octobre, selon les chiffres de Séoul. Des hommes désormais formés et habitués aux défis de la guerre moderne, comme l'a même reconnu le député sud-coréen Lee Sung-kwon au sorti d'une rencontre avec les services de renseignement.
Après 6 mois de participation à la guerre, l'armée nord-coréenne est devenue moins inefficace et sa capacité de combat s'est considérablement améliorée à mesure qu'elle s'habitue à utiliser de nouvelles armes telles que les drones.
600 morts, près de 5000 blessés. À en croire les chiffres de Séoul, l'opération a eu un impact important pour le régime qui, pour justifier son implication dans une guerre lointaine auprès de sa population, insiste sur la présence de soldats ukrainiens sur le sol russe.
Suivant l'ordre du chef de l'État, les soldats de notre République considèrent le territoire de la Russie comme la terre sacrée de leur patrie. Et, avec une ferme volonté de la défendre et un esprit de sacrifice jusqu'à la mort, mènent des actions de combat concrètes impliquant des sacrifices.
Une ligne en accord avec l'application du partenariat stratégique qui lie les deux pays en cas d'attaque sur leur territoire. À Kiev, certains officiels estiment que les soldats nord-coréens seront bientôt sur le sol ukrainien. Une éventuelle escalade plus difficile à justifier pour Pyongyang.
Nicolas Roca, le premier ministre pakistanais accuse l'Inde de provocation, des mots prononcés par Shehbaz Sharif lors d'un entretien avec le secrétaire d'État américain et après plusieurs nuits d'échanges de tirs dans la région contestée du Cachemire. Une semaine après l'attentat meurtrier qui a fait 26 morts côté indien, Islamabad assure désormais anticiper une frappe indienne imminente. RFI 23h08 en temps universel et 137 milliards de dollars, c'est ce qu'ont coûté les catastrophes naturelles aux assurances l'an dernier selon le réassureur Swiss Re. C'est plus que les années précédentes et la tendance à la hausse devrait se poursuivre. Les coûts pour l'économie sont eux encore bien plus importants, Pauline Glaise.
Les ouragans Milton et Helene aux États-Unis ou encore des inondations à très grande échelle figurent parmi les événements les plus coûteux de 2024. Au total, les catastrophes naturelles ont engendré 318 milliards de dollars de pertes économiques. Mais comme tous les biens ne sont pas assurés, les dépenses des compagnies ont été moindres, 137 milliards de dollars. Surtout, Swiss Re s'attend à ce que les catastrophes naturelles reviennent encore plus chères cette année, aux alentours de 145 milliards de pertes assurées, un chiffre un peu artificiel, mais basé sur la croissance moyenne des dernières années. La courbe est incontestablement à la hausse, et le réassureur estime même qu'il y a une chance sur 10 pour que 2025 soit une année de pertes exceptionnelles. Alors ce rapport appelle à réduire les risques grâce à de la prévention et des mesures d'adaptation, et de souligner que ces mesures d'adaptation et d'atténuation requièrent une approche incluant divers acteurs, des propriétaires au gouvernement, en passant par le secteur des assurances lui-même. Pourtant, de grands groupes d'assurances ont été épinglés l'année dernière encore par Reclaim Finance pour leurs investissements plus ou moins directs dans des entreprises liées aux énergies fossiles.
Pauline Glaise, et puis pas de vainqueur ce soir, si ce n'est le spectacle en Catalogne. Le FC Barcelone et l'Inter Milan se neutralisent 3-3 en demi-finale aller de la Ligue des Champions. Rendez-vous mardi prochain pour le retour de cette opposition au sommet. Presque 23h10 sur RFI en temps universel. Bonne suite des programmes à l'écoute de la Radio du Monde.